Salut à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode du podcast des 3 quarts d'heure de cette équipe. Cette semaine, forcément, on va parler du maintien de Murat Yakin à la tête de l'équipe de Suisse et on va parler de ce que ça induit pour la suite. On parle aussi du groupe de la Nati, un groupe abordable avec l'Allemagne, la Hongrie et l'Écosse. Un favori et deux équipes qui nous ressemblent peut-être un peu. Pour terminer, on parlera Super League et on se demandera si c'est bien raisonnable de jouer en Suisse en hiver. On parlera aussi des espoirs de titre de Servette qui flambe et qui est allé chercher un bon nul à ID. Et on finira sur le LS qui a explosé comme un popcorn au deuxième mi-temps à Getse. Bonne écoute des 3 quarts d'heure de cette équipe. Alors c'est parti avec Stéphane Amoroso de Blue Sport. Salut Stéphane.
Salut tout le monde.
Et nos collègues du Sport Center, Florian Vanet, salut.
Bonjour, bonjour.
Daniel Visentini, salut à toi.
Bonjour tout le monde.
Bon, on arrive un petit peu après la pluie, ça tombe bien, Inès. On va commencer avec toi, Daniel, parce que je pense qu'on est un peu gros. On a eu la confirmation que Murat Yakin allait entraîner l'équipe de Suisse pendant l'Euro. Et ça ouvre plein de questions, mais la première que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi, tout simplement, est-ce que l'ASF a manqué de courage sur ce coup-là ?
Alors, moi, j'en ai pas un peu gros. Hein. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, quelque part. Donc, avec Murat Yakin, c'est vrai qu'il nous a habitués à plutôt à des mauvaises surprises jusque-là. Mais oui, on peut clairement se poser la question si le courage n'a pas manqué à l'ASF, hein, dans le sens où les signes alarmants existe depuis plusieurs mois. Alors, certains confrères ou dans l'opinion publique ou dans l'inconscient général, on a tendance à se dire « Ouais, mais c'est depuis peu, c'est seulement depuis cet automne. » C'est pas vrai, les problèmes existent déjà avant le Mondial. Je vous rappelle qu'en Ligue des Nations, en juin 2022, Granit Xhaka tire déjà une sonnette d'alarme en s'interrogeant sur le fait que Murat Yakin s'obstine à le faire jouer en numéro 8 comme Arsenal. Alors que lui voudrait jouer en numéro 6 dans cette équipe de Suisse, c'est là qu'il est essentiel, pas en numéro 8. Et pourtant, ça va traîner. Et il y a eu une rébellion des joueurs à Genève à la mi-temps du match entre la Suisse et l'Espagne. Tout ça, on est 6 mois avant le Mondial. Au Mondial, on sait ce qui s'est passé. On y part pratiquement sans latéraux. Et puis quand ceux-ci viennent à manquer, les rares qui restent, ben, il n'y a plus personne, on passe à une défense à 3, on prend 6-1, et il faut peut-être se dire que ce 6-1 a laissé plus de traces qu'on ne voudrait bien le croire, d'autant plus qu'aucune autocritique a été faite, ni de la part de Murat Yakin, ni de la part de l'ASF surtout. Donc on en est là aujourd'hui avec une situation qui s'est un peu gangrénée, avec des éliminatoires catastrophique de l'équipe de Suisse. C'est littéralement honteux ce qui s'est passé. 4 victoires dans ce groupe-là. Sur les 7 derniers matchs ou les 8 derniers matchs, il y en a un de perdu et c'est 5 nuls. C'est hallucinant. Les 2 victoires, c'est seulement contre Andorre. On en est là et on se dit, bah oui, Murat Yakin va être l'homme de la situation parce qu'il nous a dit qu'il allait l'être. Franchement, on peut avoir des doutes.
Stéphane, quand tu as appris la nouvelle, tu t'es dit « Ah ouais, c'est très suisse en fait ».
En fait, j'ai été aussi un peu déçu du fait que voilà, il n'y ait pas de grande décision de prise. Puis après, j'ai réfléchi 2 minutes, puis je me suis dit « Mais est-ce qu'il y avait vraiment une autre solution à 6 mois de l'euro ? Est-ce que ce n'était pas trop risqué de prendre quelqu'un pour 6 mois sans avoir l'assurance qu'il continue derrière ? Et puis surtout… Alors, qui voudrait cette situation ? Puis surtout, est-ce qu'il y avait vraiment le candidat idéal pour ça ? Alors, on pourra toujours parler des noms qui sont sortis. Oui, non, il voulait pas, il aurait pu. Mais voilà. Mais
Stéphane, c'est la même chose que Yakin. On le prend pour 6 mois et après l'euro, il n'a pas de contrat. Donc, on est dans le même cas de figure.
Mais le problème, c'est qu'ils ont… Enfin, d'après ce qu'ils disent, c'est qu'en février ou mars prochain, ils vont se réunir pour voir s'ils ne veulent pas le prolonger encore.
Ça, oui, là, on voilà. Est effectivement toujours pas à l'abri d'une surprise.
Voilà, donc, mais oui, alors, moi, je pense que c'était la facilité de rester avec Yakin parce qu'il est là. Et puis, s'il y a une bonne surprise à l'euro, on dira bravo. Et puis, si ça ne marche pas, ben, on dira, ben, on le savait, on l'avait que pour ces 6 mois-là. Et puis après, ce sera ciao. Donc, finalement, est-ce qu'il fallait vraiment prendre le risque de prendre quelqu'un d'autre pour tout rechambouler ? Je ne suis pas sûr. Après, encore une fois, comme tu l'as dit, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise non plus.
Voilà. Cela dit, moi, ça me rappelle quand même quelque chose et ça raconte un petit peu la manière de fonctionner de la Suisse, de l'ASF, des dirigeants du football suisse, indépendamment des airs. Par exemple, en 2011, il y a un certain Ottmar Hitzfeld qui est à la tête de la sélection helvétique. Il foire complètement les qualifications pour l'Euro 2012 en terminant à la quatrième place. C'est ridicule. Et qu'est-ce que fait l'ASF à ce moment-là? Par peur du vide, avant même un match où la Suisse piteusement fera 0-0 à Malte, avant ce match, elle s'empresse de prolonger le contrat d'Ottmar Hitzfeld. Ce qui advient après, c'est anecdotique. Peu importe, la Suisse arrive en 16e, en 8e de finale lors du prochain du mondial qui va suivre. Mais il se trouve que l'ASF, par peur du vide, déjà à ce moment-là, d'autres dirigeants n'osent pas prendre une décision claire et nette. On est en 2023. C'est exactement la même chose qui se passe. Tous les signaux d'alarme sont tirés. Il n'y a aucune progression. Il y a au contraire une immense régression de l'équipe de Suisse et on ne sait pas prendre une bonne décision.
Bon, Florian Vanet, oui, tu es là. Déjà, quel a été ton ressenti? Et puis, est-ce que tu te sens toi aussi cette peur du vide ou est-ce que tu penses que c'est plutôt un problème reporté? Parce que si ça se trouve, Murat Yakin va se retrouver au début de l'Euro avec pas beaucoup d'autorité parce qu'un mois après, il ne sera plus là.
Bah, je pense que tu lances le bon mot, autorité. Je pense que tu mets le doigt où il faut. On peut vraiment se questionner par rapport à ça, par rapport au dernier résultat de la Suisse. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec l'autorité de Murat Yakin? Est-ce que les cadres de l'équipe ont abandonné, se sont dit que de toute façon, la qualification pour l'Euro était plus ou moins dans la poche, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire? C'est possible. C'est aussi un peu une théorie de l'ASF qui nous a reçus la semaine dernière et qui a tout fait pour pour mieux répartir les fautes, en mettre un minimum sur Murat Yakin, un maximum sur les joueurs. Je pense qu'on peut aussi entendre ce discours-là. Moi, finalement, je suis un grand défenseur des entraîneurs et je suis toujours content quand on leur laisse le temps de travailler. Maintenant, ça m'arrive rarement, mais je pense que le moment était venu de se séparer de Murat Yakin pour toutes les raisons qu'a évoquées Daniel notamment et celles dont on a largement parlé ces dernières semaines. Est-ce que je suis choqué qu'il soit encore là? Non, mais ça ressemble aussi un peu à, comment dire, à une volonté de... Ouais, une volonté d'être un peu bien suisse, de voilà. On a toujours honoré les contrats de nos entraîneurs quand ils se qualifiaient pour l'Euro. Alors allez, on continue un peu, etc. On peut faire passer ça pour du manque de courage. On peut aussi voir quelque part du courage dans le fait de prolonger un entraîneur qui est détesté de partout. Mais est-ce que le courage est toujours une bonne chose? Je ne sais pas. Est-ce que quand on veut traverser une mare de crocodiles, on est courageux, mais est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas.
En fait, tu es passé par l'Afrique il n'y a pas longtemps avec tes discours. Daniel, tu voulais réagir?
Oui, on parlait d'autorité. Souvenons-nous brièvement de ce qui s'est passé au Mondial 2022 lors du match contre la Serbie. Murat Yakin concocte un système avec chacun en numéro 8. Le match commence comme ça. La Serbie vient à mener 2-1. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Sans aucune concertation avec Murat Yakin, Granit Xhaka prend 2-3 joueurs, 2-3 leaders autour de lui, dont Freuler, et il dit « Stop maintenant, on ne joue plus comme ça. Je viens numéro 6. Remo, tu viens à côté de moi. On fait deux numéro 6 et on se remet dans un schéma qu'on connaît. Qu'est-ce qui se passe? La Suisse va gagner ce match 3-2. Donc, en termes d'autorité, je pense que celle de Murat Yakin vis-à-vis de l'équipe et des leaders, elle n'existe plus.
Stéphane, on parle souvent de cassure avec le public, mais j'ai envie de te demander quel public, parce qu'on a vu en Hongrie contre Israël, bon, le timing n'était pas idéal, hein, mais il y a 35 supporters suisses. Quand on joue à la maison, voilà, 38. Quand on joue à la maison contre le Kosovo, c'est la moitié des Kosovars dans les tribunes. Il faut trouver des petits stades pour affronter les petites équipes. Alors que, bah oui, contre le Togo en 2006, on a mis 40 000 Suisses à Dortmund, on s'est retrouvé à 20 000 à Wembley ou au Stade de France. Mais cette cassure avec le public, moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que toi, tu sens, mais c'est le public lambda, celui qui lit le matin.ch ou 20 minutes et met des commentaires où il faut virer tout le monde? C'est quoi ce public suisse?
Ouais, c'est une très bonne question. Après, il faut dire aussi que bon, ben voilà, l'attrait du groupe de qualification de la Suisse a aussi fait que, ça je peux imaginer, évidemment, ben, le Kosovo, ben voilà, c'est comme quand ils ont joué contre l'Albanie à l'Euro. Ça reste un derby, si l'on veut bien. Donc, évidemment, il y a beaucoup de ferveur de ce public-là par rapport à la Suisse, parce que c'est le pays qui les a accueillis. Mais effectivement, il y a un profond désamour qui s'est ancré entre le public et l'équipe de Suisse depuis, justement. Alors, peut-être pas que depuis que Mourad Yakin est là, mais en tous les cas, c'est là où on l'a vu. Depuis ce match contre la Roumanie, que la Suisse ne devait jamais, qu'elle devait gagner absolument. Et puis après, ben voilà, les matchs, le niveau des matchs a fait que ben forcément, on n'avait plus trop confiance en cette équipe, que Mourad Yakin, oui, il était décrié de partout. Et puis qu'on attendait peut-être une réaction aussi de la fédération qui n'est jamais arrivée pour redonner un peu d'élan. Et puis, ben voilà, maintenant, ce sera aussi intéressant de voir l'attrait des Suisses pour aller en Allemagne, surtout avec le groupe dans lequel la Suisse est, un groupe quand même assez attrayant. Donc moi, je pense qu'il y aura quand même passablement de Suisses qui vont être derrière leur équipe à l'Euro, parce que finalement, la finalité, c'était de se qualifier, et la Suisse, elle est qualifiée. Donc il y aura toujours dans des grands tournois vraiment le public qui sera là derrière, ça, j'en suis convaincu.
Oui, mais je crois que si je peux me permettre de rebondir, le public suisse est très volatile, mais tu as évoqué une cassure entre le public et l'équipe. C'est peut-être là qu'il y a quelque chose. Et bah, on a eu l'occasion c'était un des thèmes qu'on voulait aborder avec Pierre-Louis Itami la semaine dernière, et il n'a jamais vraiment répondu à cette question. Donc c'est sans doute la preuve qu'il y a un petit malaise à ce niveau-là. Alors la thèse de dire que oui, mais Mourad Yakin en Suisse allemande ça va, c'est surtout en Suisse romande ou avec
Ça,
deux
c'est
trois.
faux.
Ouais, aujourd'hui c'est faux. Je suis d'accord avec toi. Et enfin, la thèse aussi de dire qu'avec une ou deux victoires tout ira mieux, ça c'est peut-être un peu plus juste. Et je
J'ai une
pense.
théorie sur ce désamour. J'ai une théorie. Mourad Yakin a reçu clé en main une sélection en août 2021 qui venait de faire chavirer le cœur de toute la Suisse. Tout le monde se souvient, en tant que supporter de football, d'amoureux du football, où il était le 28 juin 2021 quand la Suisse a éliminé la France.
Dans
Et
une
là, il
chambre
y a eu un...
d'hôtel à Amsterdam.
Pardon?
Dans une chambre d'hôtel à
Ah,
Amsterdam.
tu vois, alors moi j'avais la chance d'être sur place, mais cela dit, tout le monde se souvient de ça, et c'était constitutif d'un grand moment, du plus grand moment sans doute de l'histoire du football suisse, la Suisse qui bat les champions du monde en titre. Et ça a créé un sentiment de fierté nationale, pas seulement pour le résultat, mais aussi parce que la Suisse l'a fait crânement, après avoir construit une philosophie de jeu qui disait qu'on va imposer notre jeu à l'adversaire, quel qu'il soit. Elle l'a fait contre l'Allemagne en Ligue des Nations aussi, à Cologne, par exemple, et contre bien d'autres équipes. Et ça, elle a réussi à le faire, et ça rendait les supporters de l'équipe de Suisse fiers de ça. Yakin est arrivé, il a eu beaucoup de chances de se qualifier directement devant l'Italie dans les éliminatoires du Mondial 2022, mais il a tout de suite mis en place un système beaucoup plus défensif, pas du tout proactif, plutôt réactif. Et là, on a perdu ce sentiment de fierté qui était né depuis quelques années et pour aboutir au paroxysme du 28 juin 2021. Et ça, je pense que Mourad Yakin a une lourde responsabilité dans ça.
Stéphane, est-ce qu'il faut vraiment, c'est terrible ce que je vais dire, mais écouter le public? Parce qu'on se rappelle, juste quelques jours avant de battre la France, on fait un match nul, vraiment patéroche, et puis contre le Pays de Galles, on se fait déglinguer par l'Italie, et Petkovic, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur lui? Alors, est-ce que c'est franchement gouvernable, cette équipe de Suisse? C'est compliqué à ce niveau-là.
Bah, écoutez le pays, enfin voilà, moi c'est un peu comme dans toutes les grandes nations de foot, si tant est que la Suisse en est une, ça on pourra encore en discuter, mais voilà, on est tant de millions de sélectionneurs, on a tous nos choix, on a tous nos idées, ça se voit en France, ça se voit en Allemagne, quand ça va un peu plus mal, un peu moins bien, ça s'est vu en Belgique avec cette génération dorée qui n'est arrivée à rien, ça se voit en Italie évidemment en ce moment. Donc, est-ce qu'il faut écouter le public qui demande la tête de un tel, parce qu'il y a 4, 5, 6 résultats qui ne sont pas à leur goût? Je ne pense pas. Il faudrait peut-être plutôt s'en inspirer pour se dire, ah, peut-être que là, il y a une certaine partie de la population qui a peut-être raison. Est-ce qu'on ne doit pas se remettre en question et après avoir des réflexions? Donc, après, voilà, je pense que c'est une pondération à avoir. Mais là, si, il faut agir sur un coup de tête par rapport au public, ça, je pense pas.
Ce sera ma dernière question sur ce thème, Florian. Tu étais de ce bel exercice de com de la SF la semaine passée. Est-ce que c'était vraiment un échange ou c'était vraiment, tu sentais que Tammy voulait dire ses trucs, arrondir les angles à la Tammy, faire parler son charisme légendaire qui semble s'être évaporé depuis 15 ans. Comment tu as vécu ce moment un peu, ça peut être un peu lunaire, non?
Ouais, alors arrondir les angles, c'est la très bonne expression. Faut quand même leur laisser que la discussion a duré, enfin ça on appelle ça une discussion, a duré bien 1 heure, 1 heure et quart. Pendant 3 quarts d'heure, je dirais que c'était rodé, quoi. Pierre lui disait Tammy allait là où il avait envie d'aller, ce qu'il avait préparé, etc. Il a quand même fini par s'ouvrir un peu, il a quand même fini par accepter 2, 3 critiques, notamment. Donc vis-à-vis de Mouratiakine, notamment quant aux convocations de joueurs, donc on pense bien sûr au cas des latéraux, il a quand même fini par admettre certaines choses, mais de nouveau, il y avait vraiment une volonté d'apaisement, de remettre aussi la faute sur les joueurs, ouais, de nuancer aussi par les statistiques ce qui s'est passé dans cette campagne de qualification en remettant sur la table que la Suisse avait dominé tous ses matchs, ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai. Et en fait, ben, je conclurai là-dessus, mais il n'a pas tiré cette conclusion et c'est un peu dommage. Il montre que la Suisse a dominé tous ses matchs. Il parle du fait que c'était un manque de détermination des joueurs. Et à partir de là, il tire aucune conclusion. Et c'est ce que je trouvais peut-être un peu dommage, mais évidemment, il était dans son rôle et on peut le comprendre.
Daniel, on se rappelle que ce poste a été en quelque sorte créé justement pour ajouter du lien quand la SF avait connu tous ses problèmes à l'époque. Est-ce que tu trouves que la mission de Pierluigi Tammy est réussie jusque-là?
Mais je me demande surtout quelles étaient les latitudes de Pierluigi Tammy pour prendre des décisions. Il faut quand même se rendre compte que Tammy, c'est à peu près le seul qui est un technicien du football dans l'aréopage qui a décidé du maintien ou pas de Mouratiakine. On peut partir du principe que, eu égard aux critiques qu'il a formulées après la défaite en Roumanie, avant il y avait un soutien indéfectible qui était dans la droite ligne de Dominique Blanc et de toute la SF, et c'est normal puisque la Suisse devait encore qualifier. Une fois que la qualification a été entérinée, les premières critiques ou interrogations ont surgi dans la bouche de Tammy pour arriver après la défaite contre la Roumanie à se dire tout est possible, donc y compris une éviction de Mouratiakine. Si on part du principe que cette idée-là a germé dans sa tête, c'est-à-dire que la relation de confiance entre Tammy et Yakin est un peu endommagée, on va dire, entamée en tout cas. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il fait machine arrière, rétropédalage. Oh là là, il nous a tout expliqué, il nous a donné son plan, tout fonctionne bien. Je me demande d'ailleurs pourquoi son plan, il ne l'a pas mis en œuvre avant, Mouratiakine. Mais bon, sans doute un secret encore de notre ami Mourat. Mais on se retrouve dans une situation où on a un directeur des équipes nationales supérieur hiérarchique de Mouratiakine, qui manifestement a douté de sa pertinence à conduire l'équipe de Suisse brillamment à l'Euro, et il reste quand même dans la relation avec lui à quelques mois de cet Euro. Bah ouais, moi ça m'interroge tout ça.
On va parler quand même de cet Euro 2024 parce que bah, on y est et on a de nouveau eu un peu de chance au tirage hein, quand on voit sur quoi on aurait pu tomber. Stéphane, pour toi, est-ce que c'est une faute professionnelle si on n'en sort pas? Parce qu'on rappelle quand même que les deux premiers sont qualifiés et les meilleurs troisièmes passent aussi. 16 équipes sur 24 vont jouer les huitièmes. Si on ne passe pas là, ben, ce sera un échec total.
Alors, échec total, je dirais pas, ce serait un échec. Oui, après, il faudra voir le niveau de la Suisse dans 6 mois. Déjà, ce sera une première chose. Mais oui, effectivement, 4 meilleurs troisièmes qualifiés, faudrait, je pense, quand même, gros concours de circonstances pour qu'on le soit pas. Après, voilà, ce groupe, pour moi, il est très ouvert. Parce que j'ai l'impression que tout ce qu'il fallait éviter a été un peu évité, dans le sens où, ben voilà, dans le chapeau 1, l'Allemagne, ce n'est pas forcément actuellement le plus gros poisson. Fallait éviter l'Espagne, la France et l'Angleterre, pour moi, le Portugal aussi. On évite aussi les Pays-Bas, qui étaient dans le chapeau 3. Ça, c'est toujours un match extrêmement compliqué, même s'ils sont aussi un petit peu dans le dur. Et puis ensuite, ben voilà. La Hongrie et l'Écosse, ben, c'était totalement jouable. La Hongrie, je la comparerais vite fait, si on peut le faire, à la Suisse quand même. C'est deux équipes, je dirais, assez semblables au niveau des forces en présence, même si je pense que la Suisse est quand même intrinsèquement, au niveau des joueurs, supérieure à la Hongrie. Après l'Écosse, il y a beaucoup de joueurs de Première Ligue. On connaît l'intensité du championnat. Mais encore une fois, je pense que la Suisse de 2022, on va dire ça comme ça, a largement les moyens de se qualifier. La Suisse de 2023 ou des dernières semaines, j'en suis pas sûr.
Florian, bah l'Allemagne en Allemagne, ça va de toute façon picoter. Hein. On connaît les Allemands en plus dans les tournois, dans les grands tournois. Mais comme le disait Stéphane, on a en face Écosse et Hongrie. C'est des équipes qui nous ressemblent, je trouve, avec quelques joueurs de grand niveau, agrémentés d'un peu ce qu'on peut. Szoboszlai en Hongrie, John McGinn, mon joueur préféré au monde en Écosse. Ça va se jouer bah aussi sur la forme du moment, aussi sur le coaching. Et c'est peut-être là que ça va être intéressant aussi.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est hyper ouvert. Et de nouveau, tu parlais de est-ce que c'est une faute professionnelle si tu sors. Tu peux imaginer terminer de ce groupe avec 4 points, puis sortir de l'Euro avec 4 points. Ce serait vraiment pas de chance, mais c'est un scénario qui peut s'entendre. Est-ce que à ce moment-là, on parlerait de faute professionnelle? Je ne sais pas. Franchement, maintenant, je me mets aussi dans la position de l'Allemagne. Est-ce que les vrais chanceux, ce n'est pas eux? Parce
Ah
que,
oui, c'est
franchement,
sûr.
je pense, parce qu'on parle de la pression sur l'équipe de Suisse, sur Murat Sakin. Tu es allemand, tu tires ce groupe-là. Ok. Parce que, je veux dire, la Suisse fait peur à personne en ce moment. L'Écosse, il y avait pire. L'Hongrie, il y avait pire. Ouais, maintenant, pas grand-chose d'autre à dire à cette question.
Daniel, alors d'un côté sportivement, c'est jouable, et de l'autre côté, ça va être des super matchs.
Bon, c'est pas jouable. La Suisse a eu du bol dans le tirage au sort. Parce que quand même, je veux dire, on va quand même dire les choses. Ok, la Hongrie se reconstruit, l'Écosse aussi. D'accord. Mais la Hongrie, c'est zéro mondial depuis 1990. À l'Euro, c'est un huitième de finale en 2016 et c'est un premier tour dans l'Euro 2020-2021. C'est tout. L'Écosse, c'est rien depuis 2002 au niveau du mondial et c'est un premier tour en 2021. Et avant ça, c'était rien. Avant 96, c'était dans le groupe de la Suisse, d'ailleurs, l'Écosse. Donc, on part avec deux équipes nationales qui ont infiniment moins d'expérience des grands rendez-vous et des tours finales que la Suisse. Intrinsèquement, la Suisse a les qualités supérieures à ces sélections-là si elle joue sur ses forces pour passer l'épaule. Je ne dis pas que ce sera facile. Je ne sous-estime pas l'adversaire ou je ne surestime pas la Suisse. Mais enfin, une Suisse qui est bien organisée et qui est en accord avec ses principes de jeu doit passer à l'une des deux premières places et pourrait même, en tout cas, c'est ce qu'elle faisait à l'époque avec Petkovic, titiller l'équipe d'Allemagne. Donc, ça s'est passé en Ligue des Nations. Donc, voilà, oui, je pense que ce serait quand même très grave si la Suisse n'arrivait pas à se qualifier pour les huitièmes de finale.
Stéphane, est-ce que tu penses que c'est pour cette génération qu'on peut qualifier de dorée hein, pour la Suisse avec le talent qu'elle a actuellement, est-ce que c'est la dernière chance de faire un gros coup? Parce que quand on voit quand même les successeurs de Shaqiri, Xhaka et compagnie, c'est pas au niveau quoi.
Oui, ben voilà, ben on met le doigt sur quelque chose aussi. Tu parles de Shaqiri. Alors oui, je pense que pour la Suisse, c'est l'un des derniers, si ce n'est le dernier moment pour réaliser un gros coup. Et justement, donc tu parlais de Shaqiri. Moi, je ne suis pas forcément d'avis. Alors, il faut le prendre dans le groupe, ça c'est évident, pour toute raison que l'on peut imaginer. Par contre, je suis pas sûr qu'il faille le mettre en tant que titulaire à chaque match. Donc ça c'est déjà, ça peut déjà en partie répondre à ta question. Ben voilà, c'est cette génération dorée, elle est gentiment sur la fin. Derrière, ça pousse, oui, mais effectivement, à tous les postes, il n'y a pas pour le moment la même patte, la même qualité. Donc, il faudra peut-être attendre dans les prochaines années, parce que là, on critique tout ce qu'on veut Murat Yakin, mais la Suisse s'est qualifiée. C'est peut-être, je l'espère pas, mais peut-être l'une des dernières fois pendant 4, 8, 12 ans où on va se qualifier pour un grand tournoi. Donc, si ça se passe comme ça dans le futur, bah oui, forcément, c'est un, l'année prochaine, ce sera la dernière chance de la Suisse, de cette génération, de réaliser quelque chose.
Mais on est vraiment si inquiet que ça pour ça, parce qu'au fond, Xhaka, il aura 33 ans au Mondial 2026. Yann Sommer, je pense qu'il y a assez de monde derrière lui pour le remplacer, ça va. On trouve un remplaçant à Ricardo Rodriguez, ce qui doit pouvoir se faire. Et puis, Shaqiri, c'est un par siècle. Donc,
on pourrait pas avoir un remplaçant pour Ricardo Rodriguez maintenant.
Donc, non, mais ça, c'est tout le problème de Yakin quelque part. Je veux dire, il y a zéro sens de l'anticipation pendant ses qualifications pour l'Euro 2024. Hein. Je veux dire, quand on laisse… alors, Jachari, OK, il y a eu toutes les déboires qu'il y a eu cet été avec Lucerne. N'empêche que… Puis après, le refus de la sélection avec les M21. Mais n'empêche que Jachari, c'est quelqu'un qui doit intégrer le groupe. Je parle même pas de Rieder. C'est incompréhensible qu'on ne prenne pas Rieder quand on laisse Sow de côté, par exemple. Donc il y a des visions Yakin qui sont totalement incompréhensibles. On peut parler du cas de Blum. On n'a pas de latéral droit, mais voilà, ben Blum il brille en qualif de Champions League. Il est en Champions League en phase de groupe. Ben voilà, on ne sait pas pourquoi on ne le prend pas. Les cas Lotomba, Mbabu qui rejoue, ben les vilains petits canards aux yeux de Yakin. Enfin, il y a tellement de manque d'anticipation que c'est pas tant pour l'Euro 2024 qu'il faut être inquiet, mais c'est pour la suite, parce qu'on n'a rien anticipé, alors qu'on était dans un groupe où on pouvait tout anticiper. C'est ça qui est incroyable.
Oui, mais on a quand même fait rentrer les petits jeunes à la 80e chaque fois, chaque fois que la Suisse baisse ses pieds et se faisait égaliser. Non, c'est terrible, et on va repartir avec ça sur un euro sans rien créer derrière. Florian, ça ne te fait pas peur, ça, parce qu'on tire cette génération jusqu'au bout, en gardant les mêmes jusqu'au bout, sans donner la chance aux autres, et puis on va se retrouver pour une qualif Coupe du Monde après, qui est bien plus compliquée qu'une qualif Euro, avec des joueurs qui vont être un peu perdus, et surtout sans savoir quel coach il y aura.
Ah, mais bien sûr que ça me fait peur, bien sûr, évidemment. Maintenant, je pense que je peux pas concevoir que cette génération soit complètement finie. Je peux pas concevoir qu'à 31 ans, Granit Xhaka soit sur son dernier grand tournoi.
Je suis d'accord avec toi.
Ouais, je veux dire, faut pas. Aujourd'hui, avec les préparations physiques, avec les techniques de récupération, etc., je pense que Granit a encore quelques années de foot devant lui. C'est très mais différent pour Tierdan Shaqiri.
Oui, mais alors justement, pardon de te couper, mais est-ce que ce sera suffisant? Un Granit Xhaka, ok, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que ce sera suffisant pour l'entourer avec justement ce manque d'anticipation pour les futures qualifications, non, pour les futures années? Voilà, donc si on mise sur lui et puis qu'on ne l'entoure pas bien, ben dans quelques années, on sera plus qualifié, quoi.
Je suis d'accord, et peut-être qu'il faudra aussi se réhabituer à avoir un ou deux postes faibles dans l'équipe, ce qui était peut-être un peu moins le cas ces dernières années. Mais
je pense qu'il y a quand même quelques postes faibles, notamment sur les ailes et même sur tous les côtés, non ?
Ouais, puis on peut espérer quand même que quelqu'un comme Rieder va enfin trouver grâce aux yeux de Murat Yakin, parce que c'est incompréhensible, encore une fois, quoi. Et voilà, je veux dire, quand on commence contre la Biélorussie avec, pour plus jeunes joueurs, et encore, à son corps défendant, il l'a sélectionné, Jordan Lotomba, 25 ans, en laissant Ndoye et Hamdouni sur la touche pour mettre Stephen, le fantôme, sur le côté gauche, bah, franchement c'est juste pas sérieux, c'est pas normal.
Ouais, je sais pas, il y a des trucs qui passent, mais il y a un autre flanc à ce débat que Daniel, il faut pas qu'on oublie de préciser. C'est que c'est 9 millions qui rentrent dans les caisses, 7 euros, plus les points, plus d'éventuelles primes de qualif et compagnie. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de qualif pour la Coupe du Monde 2026, ça va devenir très dangereux aussi financièrement pour toute la structure.
Mais ça l'est déjà dangereux. La Suisse a perdu plus de 2,3 millions dans l'exercice de l'année dernière et elle va maintenant devoir renégocier auprès des sponsors. Le Crédit Suisse, ça s'arrête à l'été. Donc le contrat du Crédit Suisse sera plus honoré. Après, il faut trouver un nouveau sponsor. Il va falloir y aller, trouver le nouveau sponsor avec une équipe de Suisse qui présente un jeu qui a régressé, qui intéresse moins les gens, qui est moins porteur. C'est tout ça qui est en jeu aussi. Et forcément, quand on ne donne pas un chemin vers l'avenir avec des idées fortes, le déficit d'image, il est catastrophique.
Alors Stéphane, dernière question pour cette partie. Comment tu vois le parcours de l'équipe de Suisse à 7 euros avec ce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui, hein. Et à quelles conditions tu prolonges Yakin? qualification 8e, on lui remet 2 ans.
Moi, j'irais pas en termes de résultats, j'irais en termes de performance. Si Yakin arrive à redonner une âme à cette équipe pour qu'elle performe, les résultats vont arriver. Si on voit la Suisse qui a été apathique pendant les dernières semaines et que par miracle, elle se qualifie et qu'elle se fait sortir par l'Espagne ou l'Angleterre ou je ne sais pas qui en 8e de finale, finalement, si la Suisse se fait éliminer à ce stade-là par un gros, on dira ce n'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est que l'équipe de Suisse retrouve sa jouerie, sa joie de gagner. Et surtout, si Yakin arrive à se remettre en question et à faire des choix forts, donc, c'est-à-dire, comme on en a parlé avant, choisir les bonnes personnes au bon poste, là, voilà, ou peut-être même aller savoir, peut-être qu'on aura une surprise en mars et puis qu'il y aura un autre gardien dans les buts, ça, pourquoi pas, même si j'ai absolument rien contre Sommer. Moi, je me dis que Yakin, maintenant, il n'a plus rien à perdre. Maintenant, il devra tenter des choses. Donc, pourquoi pas entrer dans un mode où il se dit, je ne fais plus de concessions, plus de cadeaux, je devais choyer mes cadres, maintenant, je ne le fais plus, je mets les bonnes personnes au bon poste, les hommes en forme au bon moment et tout. S'il arrive à faire ça et si ça fonctionne, ben, pourquoi pas le prolonger, effectivement. Mais c'est là le problème, est-ce qu'il peut se remettre en question ?
Florian, à part contre le Portugal, hein, ça gérera l'intuition qu'il est pas mal, moi, maintenant.
Ouais, un peu dans ce rôle savant faux, ouais, je suis d'accord avec toi, mais il y a tout un tas de décisions qui ne seront pas à prendre au match directement, qui seront à prendre avant, qui seront à prendre quant à la sélection, quant à, j'imagine, à la préparation, aux entraînements. Et la question que je me pose aussi, puis peut-être qu'on peut finir là-dessus en rebondissant là-dessus, mais est-ce qu'il ne manque pas vraiment une grosse équipe dans ce groupe ? Parce que l'Allemagne est une grosse équipe par son renom, mais pas forcément par son football. Et en ce moment, je te vois faire la tête, Robin. En ce moment,
t'inquiète pas que les Allemands, l'été prochain, ils seront prêts.
Bah, je me réjouis de voir ça, mais je serais curieux de vous entendre. Est-ce qu'il ne manque pas une grosse équipe, une vraie grosse équipe dans ce groupe ?
Non, moi, je pense pas. Moi, l'Allemagne est cette grosse équipe. L'Allemagne qui joue un euro à domicile, c'est quand même un gros monstre que la Suisse va affronter. Et justement, c'est pour toute la Suisse allemande le match phare. Battre l'équipe d'Allemagne, c'est un rêve.
C'est la Suisse France de 21.
Hein. Ben, voilà, quelque part. Hein, mais en termes de performance, comme disait Stéphane, moi, je veux voir une équipe de Suisse qui soit capable de prendre son destin en main. Or, avec Yakin, c'est pas l'idée de prendre son destin en main qui prédomine, c'est plutôt de contrer le destin de l'adversaire. Et donc, c'est la différence entre être réactif ou proactif. Et toute la question est là avec Murat Yakin, est-ce qu'il est capable de changer drastiquement son fusil d'épaule ? Moi, j'en doute. Cela dit, les joueurs eux-mêmes, quand ils sont sur le terrain, sont capables parfois de ranger entre parenthèses les idées d'Yakin pour eux-mêmes prendre leur destin en main et avoir un jeu proactif. Donc, est-ce qu'on va assister à ça ? Dans tous les cas, on peut se poser des questions. Mais cette Suisse-là, oui, doit faire quelque chose à ce mondial. Et ce quelque chose-là doit être de nature d'une performance incroyable. C'est comme quand la Suisse joue contre la France ou contre l'Espagne au mondial à l'Euro 2021. Eh bien, elle sait réagir, elle sait donner de la fierté aux gens parce que justement, c'est un peu un héros grec, elle lutte contre son destin fatal, elle lutte à 10 contre l'Espagne pour arriver jusqu'au tir au but. Elle perd 3-1 contre la France le tour d'avant à la 75e et pourtant, elle va égaliser et ensuite gagner au tir au but. Donc, il y a cette histoire-là de héros grec quelque part qui existait et c'est ça qui rendait le peuple suisse fier. C'est ça, c'est ce sentiment-là qu'il faut retrouver.
Il nous reste exactement 12 minutes pour parler un petit poil de Super League. Je vais commencer, j'ai 3 questions hein, pour meubler ces 12 minutes. Stéphane, je commence avec toi. Est-ce bien raisonnable de jouer en Suisse ? On connaît les coins comme Saint-Gall, comme la Pontaise. Est-ce bien raisonnable de jouer début décembre et même fin du mois de janvier en Suisse au football ?
Oui, on sait aussi qu'à Winterthur, à Zurich, ce n'est pas facile, effectivement. Est-ce que c'est raisonnable? Non. Mais est-ce que c'est faisable de faire autrement? Non. Donc, finalement, voilà. Et puis, ben, la trêve.
Avec moins de matchs en une saison, c'est faisable.
Alors, avec moins de matchs, mais voilà, on vient de changer de système. Donc, je ne suis pas convaincu que c'est vraiment la direction qu'on prend. Mais voilà, cette trêve, cet hiver, elle sera plus courte par rapport à l'Euro qui arrive. Donc, oui, c'est toujours compliqué. Et puis, on l'a encore vu ce week-end, voilà, bah ça reporte des matchs, c'est compliqué pour tout le monde, pour les équipes, pour les journalistes, etc. Mais ma foi, dans l'état actuel des choses, j'ai envie de dire, bah, on a pas le choix, quoi, tout simplement.
Florian, j'étais en Angleterre ces 10 derniers jours, il faisait même temps qu'ici, même un peu plus froid et même un peu plus de neige, mais là-bas, tout a joué dans les principales divisions. Est-ce qu'on n'a pas un petit problème d'infrastructure aussi à ce niveau-là?
Sans doute, hein, quand on voit la tranche du Letzigrund ce week-end pour Lausanne, on peut se poser la question. Maintenant,
ça mais là, on aussi... a joué. Là, on
oui, a exactement. Mais, exactement. Ouais. Mais ça va aussi avec le rang de notre football, quelque part. La question que je me pose de plus en plus, c'est à quel point notre saison de Super League et de Challenge League est vraiment bien construite. Est-ce qu'on ne joue pas trop de matchs? Alors, évidemment, il y a toutes les questions liées aux diffuseurs qui entrent en jeu, mais maintenant, on casse les matchs vraiment partout où on peut. On parle de santé des joueurs, etc. On parle de on le voit bien avec le ski alpin en ce moment, à quel point c'est compliqué.
Le football est un sport d'extérieur.
Ouais, mais exactement. Évidemment, ça se retrouve dans le football. Et de nouveau, il faut aussi penser au break des joueurs. Ils ont le droit d'avoir aussi peut-être 2-3 semaines de vacances en hiver, la même chose en été. Il faut aussi penser à ça. Et je veux dire, le modèle actuel laisse à peine le temps à tout ça. Alors, je pense qu'il faudrait se pencher là-dessus. Parce que je ne sais pas vraiment où on va, mais pas dans la bonne direction.
Et puis, Daniel, je voulais juste aussi dire un truc. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que par exemple, en Challenge League ce week-end, il y a 4 matchs annulés, mais 3 sont sur terrain synthétique. Donc, moi, j'aimerais quand même qu'on m'explique à quoi ça sert d'avoir un terrain synthétique si on n'arrive pas à le déneiger et à jouer dessus. Une pelouse naturelle, il n'y a pas de souci, je comprends. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Surtout que, à Ville, c'était compliqué parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de neige qui tombait après avoir déneigé. Mais par exemple, à Thun, on l'a appris samedi que dimanche, Thun ne jouait pas. Avec la météo de dimanche, on ne va pas me faire croire que des tracteurs ne pouvaient pas déneiger le terrain synthétique de Thun pour jouer. Voilà, ça c'est juste ce que je me pose comme question.
Est-ce que ce n'est pas une peur de plaques de glace ou de choses comme ça qui pourrait
décoller? Peut-être.
C'est un bel exemple de Lausanne, hein, où tu as le droit à chauffer la pelouse 3 jours par année, c'est-à-dire un jour avant le match, le jour du match, puis après il te reste un jour.
Le problème, il est là, Robin. Il est là le problème. Je veux dire, la Swiss Football League impose à tous les clubs d'avoir maintenant des systèmes de chauffage des terrains, et puis on ne les utilise pas. Donc, c'est quand même catastrophique comme stratégie, quoi. Tant qu'on n'aura pas justement l'obligation de le faire, hein, chauffer les terrains 3 jours avant le match ou 2 jours avant pour que la neige ne tienne pas, eh ben voilà, on sera toujours rendu à ces extrémités-là.
Et après, on s'étonne, certains clubs s'étonnent de la pauvreté des droits télé en Suisse. S'ils ne sont pas capables d'imposer ça, c'est qu'il y a un petit problème. Si tu ne peux pas livrer ton produit, Stéphane, tu ne contrediras pas, c'est un peu embêtant pour vendre des abonnements. Bref, de toute façon, la question d'après, elle est toute simple. Stéphane, est-ce que Servette est candidat au titre? On voit dans les faits, dans les résultats, dans les points, oui. Est-ce qu'il faut y penser?
Clairement. Tu l'as dit, au niveau des résultats, des points, il faut y penser. Actuellement, ils ont un match de plus que Zurich et IB, mais ils sont à un point justement de la tête, à égalité avec IB. Moi, je trouve que Servette, sur, on va dire, les trois premières équipes, les trois leaders, si on veut bien, de cette Super League, pour moi, a montré le meilleur visage, le visage le plus solide, le plus intéressant, aussi sur la longueur, même si ça avait été un peu compliqué au début. Moi, je trouve IB beaucoup moins impressionnant que les saisons dernières. Et puis Zurich, est-ce que c'est la même histoire qu'il y a 2 ans ou pas? Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir jusqu'à la fin ou pas? Il y a 2 ans, on disait qu'ils n'allaient jamais tenir. Tout est possible avec cette équipe de Zurich. Voilà. Alors, pourquoi pas aller titiller justement et continuer à titiller ces deux mastodontes du foot suisse, parce que Servette tend à redevenir gentiment. Et puis on l'a vu avec le match de hier. Ben, Servette a absolument pas à rougir voilà, de ce nul, même si ce n'était pas une huitième victoire de suite. On a tenu tête à IB et puis on a lancé un message fort.
Daniel, ce match contre IB, ça peut être un tournant dans les têtes où on se dit, ah ben oui, on peut le faire en fait.
Alors, c'est quelque chose que les Servettiens et leur entraîneur ne veulent pas s'avouer. Mais oui, forcément, ça trotte dans leur tête, l'idée de se battre pour le titre. Cela dit, il faut nuancer. Il y a eu deux matchs dans ce match-là. Il y a eu cette première mi-temps où Servette est capable, dans l'intensité, à la perte de balle, au pressing, de rester très proche des Bernois qui eux-mêmes font la même chose. Et ce duel-là, très physique, il a existé dans la première mi-temps à l'avantage de Servette qui a été très fort en rupture, qui aurait dû arriver à la mi-temps avec deux ou trois buts d'avance. Ça, c'est une certitude. En deuxième mi-temps, en revanche, c'est une autre musique. Servette baisse d'un cran, baisse de rythme, baisse d'intensité, alors que IB pas. Et je rappelle pourtant que IB jouait sans Iten, sans Imri, sans Nias, sans Benito, sans Malès et sans Demé, tous blessés. Et pourtant, quand on regarde ce qu'il y a sur la touche, il y a du Roudani, du Lustenberger, du Nsamé, du Yanko, du Lacomi. Donc, la force d'IB, c'est une profondeur de champ phénoménale. Et pour moi, IB reste quand même le grand favori à sa propre succession. Et ce sera très difficile pour une équipe comme Servette, un peu plus limitée dans le contingent, même s'il y a beaucoup de qualités, de régater pour le titre. Cela dit, oui, ils doivent y penser. Oui, c'est normal de se dire que les choses peuvent être possibles pour Servette. Sur la longueur, ça risque d'être difficile, mais il faut y croire.
Florian, rien que le fait de se dire à Noël qu'un roman est encore en course pour le titre, c'est déjà un petit changement de paradigme.
Non, mais c'est complètement fou, mais ça découle aussi du fait que Young Boys laisse la porte ouverte. J'ai l'impression qu'il faut le prendre de ce côté-là avant tout, même si ce que fait Servette est admirable. Young Boys s'est quand même passablement planté dans sa campagne de transfert cet été. Il n'y a quasiment pas un des arrivés qui bénéficie de plus de quelques minutes de temps de jeu par match. Voilà, alors Young Boys a une certaine avance sur la concurrence. Ils ont le droit à une erreur. Ils n'ont pas le droit à 15 erreurs. On voit que c'est intéressant, c'est ce que montre Zurich, c'est ce que démontre Servette en restant à proximité, c'est que Young Boys peut pas se planter et faire n'importe quoi. Et je pense qu'ils ont le droit d'y croire, même si Young Boys reste favori. Ouais.
Stéphane, j'ai l'impression que Servette a profité de sa Coupe d'Europe pour un peu gagner en intensité et progresser à ce niveau-là, alors que IB n'en a pas tellement profité en fait.
Oui, bah en fait la Coupe d'Europe, elle a eu un effet extrêmement bénéfique sur Servette, hein, qui a commencé sa saison au petit trot, on va dire. Et puis c'est cette Coupe d'Europe, je pense, qui lui a montré que l'équipe était capable de faire de grandes choses. Et après, ben petit à petit, avec les points, les victoires qui s'enchaînent, ben ça donne le Servette qu'on a aujourd'hui. Et puis comparé à IB, ben voilà, IB avait ben voilà, le champion d'Europe en titre dans son groupe, a vraiment des équipes très très compliquées à manœuvrer et a dû se battre quasiment jusqu'à la fin pour être encore européen au printemps. Donc forcément, ça laisse des forces, mais enfin, voilà, ça prend de l'énergie, mais ça prend pas la même énergie, j'ai l'impression, côté IB que côté Servette. Il y a peut-être plus d'euphorie côté Servette. Alors même si ce que fait IB est phénoménal, hein, ça on s'entend. Mais peut-être que du côté bernois, on s'est dit que bah voilà, et qu'on n'aurait peut-être pas dû cravacher autant pour sécuriser cette troisième place parce que face à l'étoile rouge, bah voilà, IB n'était pas trois crans au-dessus non plus.
Daniel, un dernier mot sur ce Servette. Est-ce que tu sens que l'air européen a permis de monter d'un petit cran d'exigence aussi?
En deux temps, la préparation estivale a été un peu réduite parce que Servette commençait très tôt les semaines anglaises. Et en fait, ils ont axé la préparation estivale, j'en ai parlé avec le préparateur physique, sur le travail d'intensité. C'est grâce au travail d'intensité que, par exemple, même à 10, ils arrivent à tenir à Genk et à pousser Genk au tir au but et à se qualifier ensuite pour l'Europa League. Ce travail d'intensité, il se fait au déficit d'un travail de fond. Et en fait, le fonds s'est fait sur le tas, quelque part. Donc, Servette l'a payé régulièrement parce que l'intensité, tu peux la mettre en place pour un match. Et puis, après Genk, tu vas jouer à la Pontaise contre SLO et puis tu es à plat. Et puis, tu fais un match nul miraculeux avec un coup franc de Fuquet qui n'est plus là pour faire match nul 1-1. Mais en fait, ils ont dû retravailler. Le corps a dû s'habituer à ces efforts-là et faire son propre fond pendant la saison. Maintenant, ils en tirent peut-être les bénéfices. Le corps s'habitue plus à la répétition des efforts. Ils ont peut-être une meilleure gestion, un meilleur tournus aussi. Weiler ne voulait pas beaucoup faire tourner au début parce qu'il voulait créer des automatismes. Il a compris qu'il fallait quand même faire de gros tournus et mettre la priorité maintenant sur le championnat davantage que sur la Coupe d'Europe. Et tout ça, ça a fait que Servette, maintenant, bah nettement mieux, oui, c'est vrai. Et voilà, avoir deux clubs suisses au printemps, ce sera très bien pour les matchs européens. Et Servette, oui, va devoir bien terminer cette première partie de saison, bien continuer aussi. Et sur la durée, ça ne va pas être simple. Il y a souvent des blessés. Servette a terminé avec Touati et Antunes comme deux attaquants, donc à Berne. Crivelli est blessé. Guy Menot est sorti sur blessure. Bedia ne peut pas jouer 95 minutes tous les trois jours. Donc, c'est compliqué, ouais. Mais il y a une forme d'euphorie qui les porte, c'est vrai.
Alors, on a un petit peu dépassé le temps, mais juste une dernière question quand même, parler du LS, Stéphane. Le LS qui explose comme du popcorn au deuxième mi-temps à Guernsey, c'est incident de parcours, baisse de tension ou il y a un petit peu quelque chose d'autre?
Mais moi, je pense qu'il y a un petit peu de tout. Guernsey, nous, on en avait fait un point en avant-match chez nous, c'était typiquement le match pot de banane. Guernsey, fantomatique jusque-là, et au bout d'un moment, ça devait tourner sur un match.
Comme contre le SLO.
Voilà. Alors, Lausanne, voilà, qui explose en deuxième mi-temps, qui aurait dû faire le job en première. Après, Magnin, qui, à la fin du match, part un peu dans tous les sens, dans son analyse, et puis qui dit aussi que j'ai plus Sanchez, il est blessé, milieu de terrain, je ne sais pas quoi faire, je mets Illier, ça ne marche pas, etc. C'est un peu bizarre quand même, c'est un peu surprenant. On a l'impression que c'est une machine extrêmement bien huilée quand ça marche pour Lausanne, puis dès qu'il y a un petit grain de sable, on n'a pas cette anticipation pour pouvoir continuer avec d'autres moyens. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens pour le moment, mais effectivement, voilà, j'espère pour Lausanne évidemment que ce sera un accident de parcours, et puis qu'on pourra se remettre vraiment sur les bons rails par la suite. Mais voilà, le match pot de banane par excellence, Lausanne a glissé dessus, quoi.
Florian, tu es d'accord avec cette analyse?
Mis à part peut-être que je rajouterais que Lausanne est plutôt une équipe stable dans ce qu'elle présente depuis le début de la saison. Il y a eu trois gros couacs, celui à Guernsey, le match de coupe perdu 4-0 contre Lugano, et puis la défaite à domicile 5-2 contre Winterthur. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que je vois plutôt souvent le même Lausanne d'un week-end à l'autre. Encore en première mi-temps, j'ai vu un Lausanne que je connaissais, qui jouait très correctement, qui s'est créé des occasions pour mener au score et qui aurait pu gagner ce match. Puis, ouais, il s'est passé ce qui s'est passé. J'étais vraiment surpris. Effectivement, je crois qu'on peut dire que Rares Illier au milieu de terrain, ça ne marche pas top et que ce serait bien de trouver une autre solution. Mais,
Non, mais le problème, c'est que Custodio, il est bon en latéral. Mais pourquoi pas?
Non, puis en plus, là, tu as perdu Chris Camelan, donc tu perds encore un latéral pour jusqu'à la trêve, quoi. Donc, franchement, je sais pas comment il va improviser une équipe pour le derby contre Servette, mais je suis sûr que ce sera intéressant.
Si, il se joue parce qu'on a Lausanne, il neige, et puis je suis pas sûr qu'on a encore des cartouches pour chauffer la pelouse. Hein.
C'est vrai, on a déjà utilisé cette année?
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça fera un bon papier pour la semaine, tiens.
Excellent, je vais noter ça.
Daniel, un avis sur le LS ou non?
Un quoi?
Un avis sur le LS ou pas?
Ouais, mais moi, le LS, j'aimais beaucoup Sanchez. Et je crois que la vie sans Sanchez pour le LS pourrait bien être compliquée parce que c'est quand même un sacré créateur. C'est un catalyseur des actions. Des actions lausannoises et ma foi, vivre sans lui, c'est tenter Illier avec le raté qu'on sait, c'est trouver une autre solution. En fait, il y a un joueur qui portait beaucoup d'espoir de jeu pour le LS qui n'est plus là. Et dans beaucoup d'autres clubs, il n'y en a pas qu'un, il y en a un, deux, trois. Et puis quand il y en a un qui manque, les deux autres prennent les responsabilités. Il faut voir qui est capable de le faire à LS. Et il va falloir trouver cette personne-là.
Bon, on verra si Manchester United prête un joueur au Lausanne Sport cet hiver. Merci messieurs, c'était super intéressant. À tout bientôt pour de nouvelles aventures.
Bye bye.
Ciao, à bientôt, ciao. Salut.